Vous êtes sur RTL. En direct du studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 37. Voici Marie Mollet, Stéphane Carpentier, Brice Dugénie, Laurent Tessier, Damien Béchiot et Cyprien Signy.
L'équipe au complet pour vous accompagner jusqu'à 20h, bien sûr. L'information, on va vous dire des choses, vous allez apprendre des choses, mais tout ça dans la bonne humeur. Vous réagissez, vous commentez, le compte Twitter à disposition. Vous êtes tous les bienvenus sur notre page Facebook. On traîne pas, Cyprien, voici le sommaire de ce soir.
Ce soir, on défait le monde voyage. On vous emmène au Rwanda et en Afrique du Sud. On sera en direct des coulisses de la visite d'Emmanuel Macron. Euphorie dans les boutiques et les commerces dits non essentiels depuis le déconfinement. Croissance durable ou simple feu de paille, à quoi ressemblera le monde économique de demain? On allumera la lumière sur le sujet. Le loser, le grand perdant de la semaine. Et ce soir, Marie, sont nombreux vos losers, hein, puisque vous avez une pensée émue pour tous ceux qui vont devoir retrouver les joies de la machine à café entre collègues.
Et oui, ils ont goûté au bonheur du télétravail, ils vont devoir rentrer au bureau, la mort dans l'âme.
Le billet retour quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on parle moins. Brice, vous avez passé plusieurs jours au Rwanda et forcément, le sujet s'impose.
Oui, 27 ans après le génocide des Tutsis, comment cohabitent Tutsis et Hutu, victimes et bourreaux?
D'ici 20h, vos trois infos pour briller au dîner. Dans Marchouret, on va prendre des nouvelles d'Hélène, étudiante en médecine, qui nous avait raconté ici même son rêve de gravir l'Everest. A-t-elle réussi son pari? Suspense! Et réponse en fin d'émission. Et bien entendu, on n'oubliera pas de vous régaler avec le cadeau du soir. Une semaine pour 4 en demi-pension. À la mer ou à la montagne, c'est vous qui voyez. On défait le monde. Ouais, c'est bien. On défait le monde saison 2, épisode 37.
Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Aventure, nous voilà.
Défait le monde dans RTL Soir.
Et l'aventure du soir, ça commence par un bon surf de la semaine à 19h17.
Eh bien, cette semaine, on démarre par une petite leçon de politique. Masterclass signée François Hollande. Il est dans l'Hérault, interrogé sur le conflit autour de la sécurité. Et il débute en répondant ça.
En matière de sécurité, il faut éviter les polémiques, il faut éviter les surenchères.
Oui, sur ce sujet, éviter polémiques et surenchères, prendre de la hauteur. Et dans la même phrase. La même, hein. 5 secondes plus tard, je vous jure que c'est vrai la suite.
Mettre des moyens, moi j'avais contribué à créer 10 000 postes de policiers, comme mon prédécesseur en avait supprimé 13 000.
Voilà, hein, moi j'ai fait plein de trucs, l'autre il était nul, mais surtout.
En matière de sécurité, il faut éviter les polémiques, il faut éviter les surenchères.
Ah bah oui, évidemment. Sinon, big up au ministre de l'économie, mais oui, Bruno Le Maire, BLM comme on l'appelle dans le milieu. Vous savez, on connaissait son petit côté punk à chien à BLM.
Et je me sens en pleine forme. Tous les matins, je me lève en me disant « Putain, je suis français, c'est la classe !»
Putain, la classe ! Eh bien, il a lâché le punk, oui. BLM, cette semaine, il était plus en mode peura. Oui, enfin rap, quoi, sur Inter. Écoutez bien, tendez bien l'oreille.
Un an après, on n'a toujours pas reçu les 750 milliards.
L'oseille va arriver. L'oseille européen va arriver.
Ouais, frère, l'Europe, elle va envoyer l'oseille qui dit non. Eh ouais, on n'est pas bien, là. C'est quand même la classe, notre ministre de l'économie. Un ministre de l'économie moderne, hein, et une secrétaire d'État à l'écologie, Barbara Pompili, qui, elle, ressort les vieilles expressions.
Quand je vous entends, j'ai envie de vous répondre cette fameuse phrase. Vous savez, vous n'avez pas le monopole du cœur.
Ah, ça faisait longtemps, hein, le monopole du cœur. Et alors là, vous vous dites, oh, Giscard, Mitterrand, formidable, débat de 74.
Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Sûrement. Vous n'avez pas le monopole du cœur.
Alors, certes, mais les plus cinéphiles de nos auditeurs le savent bien. Le monopole du cœur, c'est pas que Giscard, non, non. C'est aussi Rocky IV. Oui, la femme d'Ivan Drago. Vous savez, le méchant russe, juste avant le combat contre Rocky, la preuve.
Vous avez l'intime conviction que votre pays a le monopole du cœur.
Il est là, papa, Rocky IV, les amis. Enfin, c'est l'interview de la semaine. Je vous la recommande chaudement. C'est Guy Roux, l'entraîneur mythique de la JOCR sur le média en ligne Brut. Bon, alors déjà, au départ, c'est pas trop où il est, Guy. Hein.
Comment ça s'appelle?
Brut.
Brut?
Oui.
Ça s'appelle Brut, c'est un truc de... Tu trouveras ce que c'est. Bonjour, c'est Guy Roux pour Brut.
Salut Guy, pour Brut. Et alors évidemment, première question, on lui parle des réseaux sociaux. Et là, complètement largué, Guy Roux. Ça m'a fait penser un peu à vous, Stéphane. Écoutez.
Guy, vous êtes sur les réseaux sociaux?
Qu'est-ce que c'est quoi être sur les réseaux sociaux? Il paraît que j'en ai 3 des Facebook. Je suis sûr qu'on m'a dit, Guy Roux, t'as un compte à Facebook. Je sais même pas ce que c'est qu'un compte. Mon compte en banque, je sais très très bien ce que c'est, mais un compte à Facebook, Je sais pas ce que c'est.
Ah ouais, ça sent compte en banque qui connaît. Un Giroud plus vrai que nature, fidèle à la légende, qui raconte évidemment comment il surveillait ses joueurs pour savoir s'ils allaient ou non en boîte de nuit. En fait, Giroud, c'était un peu la CIA, écoutez.
On pouvait lire les compteurs. Donc je passais à 20h devant chez eux, je lisais le compteur, je notais, je repassais à 7h du matin, je savais où ils avaient été. J'avais donné la liste des numéros d'immatriculation au péage et la dame me donnait ce qui était passé et l'heure. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les videurs étaient à moi. Ils m'appelaient à 8h30 le lendemain matin, ils me disaient il y avait un tel.
Formidable, Giroud. Et alors, il y en a 6 minutes comme ça, c'est extra. Et rien que pour ça, vivement la semaine prochaine.
Vivement la semaine prochaine, c'est collector. Giroud, on l'adore pour toujours. Et c'est la vérité, hein. C'est vraiment
c'est vrai, tout est vrai.
Se passait à la JOCR. 19h21.
On défait le monde sur RTL.
Première info de la soirée, grosse info, direction donc l'Afrique du Sud.
Bah oui, puisque cette semaine, on a donc déconfiné notre grand reporter du service étranger, hein, le baroudeur dont défait le monde. Brice, vous suivez donc le voyage officiel du président de la République au Rwanda et en Afrique du Sud. Alors, on a tous entendu et vu ces déclarations sur le pardon concernant le génocide. Mais ce soir, vous allez nous raconter les coulisses d'un voyage officiel. Alors d'abord, comment ça se passe, hein? Question pratique. Moi, j'ai une question de base, hein. Vous prenez un avion de ligne classique ou pas pour y aller?
C'est souvent le cas. Ouais. Alors, c'est pas toujours le cas, mais suivre les deux déplacements avec des lignes régulières, c'était impossible cette semaine. Donc, c'est avec un avion de la République française, avec tous les autres journalistes qui suivent le président. Et tout le monde paye son billet, évidemment. Il n'y a pas de tarif préférentiel, je vous l'assure. Ça ressemble à un peu un voyage organisé, sauf que l'agence de voyage, c'est l'Elysée. Il s'occupe des hôtels, de l'avion. Il donne un programme extrêmement précis du président, d'ailleurs, qui change souvent heure par heure. Et puis, ils mettent à votre disposition tout ce qu'il faut pour le suivre, les bus, etc. Mais évidemment, une fois sur place, que ce soit au Rwanda ou ici en Afrique du Sud, on est libre de faire ce qu'on veut. On peut, exactement comme je suis en train de le faire pour être avec vous, ne pas suivre tous les rendez-vous du président de la République.
Ok, donc là vous arrivez à Kigali et vous faites quoi ?
Alors, je suis arrivé 24 heures avant le président, donc ça m'a laissé le temps d'aller faire du reportage dans la ville de Kigali, qui est la capitale du Rwanda, et de partir donc demander à ces Rwandais ce qu'ils attendaient du discours d'Emmanuel Macron. Alors, j'ai appelé une personne que je connaissais sur place, qu'on appelle un fixeur, vous savez, c'est une sorte de guide. Donc, il m'a aidé à trouver des interlocuteurs, et puis après, je suis parti seul avec un chauffeur dans les collines de Kigali pour aller rencontrer ces personnes qui m'ont présenté d'autres personnes, Voilà, c'est comme ça que ça marche, en fait.
Ça s'appelle un reportage. Et pour faire des directs, vous faites comment, du coup? Question de Béotien aussi.
Ouais, alors là, je pense que ça va vous décevoir parce que au Rwanda, j'ai acheté une carte SIM 4G. C'est pas très exotique. Chez un opérateur rwandais, parce qu'il faut savoir que la ville de Kigali, la capitale du Rwanda, elle est très connectée. Les réseaux, ils sont largement aussi bons qu'en France, voire meilleurs. Donc après, avec votre carte SIM, vous la mettez dans votre téléphone et ça fonctionne.
Et alors, juste Kigali, ça ressemble à quoi?
Ben c'est très beau, c'est une ville qui est construite sur des dizaines de collines qui sont très vertes parce que c'est en altitude, c'est à près de 1500 mètres d'altitude, donc il y a de l'eau, les températures sont pas étouffantes. Il faut imaginer des milliers de mototaxis dans une ville extrêmement propre, totalement nickel, qui a été élue à plusieurs reprises ville la plus propre d'Afrique. Et c'est une ville qui, à l'image de ce pays, a explosé économiquement en une vingtaine d'années. Il y a des bâtiments en verre en construction absolument partout, il y a des hôtels de luxe, c'est très dynamique, très moderne. Vous pouvez tirer de l'argent facilement avec une carte bleue, payer partout avec votre carte bleue, ce qui est pas le cas dans tous les pays d'Afrique, loin de là. Les routes sont goudronnées. Bref, dans la capitale, les services sont proches des standards européens, en tout cas plus proches des standards européens que des pays voisins ou d'autres pays d'Afrique d'ailleurs.
C'est dingue en vous écoutant, et pourtant le Rwanda, c'est pas un pays riche.
Non, et ça reste un pays en voie de développement, évidemment, avec de fortes disparités entre les villes et les campagnes. Il y a encore 40% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Mais tous les indicateurs de développement économique depuis 20 ans montrent qu'il y a une forte croissance dans ce pays. Le niveau de vie global y monte. Le système de santé s'améliore sous l'impulsion du président rwandais Paul Kagame. En 10 ans, pour vous donner une idée, l'espérance de vie a augmenté de près de 6 ans pour les Rwandais. C'est colossal. Et puis le président rwandais, que ce soit sur le système bancaire, la lutte contre la corruption, le prélèvement des impôts, il a voulu assainir le pays pour assainir les finances et que l'argent aille bien dans les projets. Il a voulu que le Rwanda devienne un modèle pour le continent. Alors que c'est un tout petit pays, hein, ça fait la moitié d'une région française en superficie. Mais attention, c'est un pays très agricole encore, donc il ne faudrait pas non plus que cette explosion économique vienne totalement et profondément le désorganiser.
Et juste pardonnez mon ignorance, mais ils parlent quelle langue? Ils parlent français, les gens?
Oui, alors oui, mais beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire que comme il y a eu des tensions entre la France et le Rwanda depuis le génocide, la langue officielle à l'école en 2010, depuis 2010, n'est plus le français, c'est devenu l'anglais. Donc chez les jeunes, il y a assez peu de francophones. C'est pour ça que Marie-Claire, que j'ai rencontrée, qui elle est francophone, vous allez entendre que pour elle, la visite du président français, c'est vraiment un espoir pour l'avenir.
si davantage ceux qui commencent aujourd'hui peut parler au français de ce qu'est un Rwandais, de ce qu'est le Rwanda, je ne peux que me réjouir de ça. Je me dis que les Français, avec un Rwandais lambda, ils ont les mêmes soucis. Ils ont les mêmes aspirations de tous les jours. Le quotidien, c'est presque la même chose. Et je crois vraiment que si vous pouviez parler de nous tels que nous sommes, ce serait une bonne chose. Je crois, je rêve un jour que finalement j'aurai mon visa pour la France, parce que j'aime beaucoup la France.
Voilà la visite du président qui serait un rapprochement entre nos deux pays. Donc aujourd'hui, il y a 4 langues officielles au Rwanda, les 2 langues locales, le Swahili et le Kinyarwanda, et donc le français et l'anglais.
Juste aujourd'hui, Brice, Hutu, Tutsi vivent ensemble sans problème?
Absolument. D'ailleurs, à chaque coin de rue, vous trouvez des banderoles, des panneaux sur lesquels vous pouvez lire « Kwibuka 27 », ça veut dire en Kinyarwanda « Souvenez-vous, il y a 27 ans ». Ce qui montre que Hutu et Tutsi ont fait ce travail de mémoire. Ils ont mené ce travail pour revivre ensemble. Mais ça, je crois qu'on l'évoquera tout à l'heure en billet-retour.
Absolument. Billet-retour avec vous, Brice, depuis l'Afrique du Sud, pour revenir justement sur le Rwanda, ce voyage présidentiel. Les coulisses avec notre grand reporter du service étranger. 19h27, vous restez bien là. Dans un instant, c'est Marie Mollet. Pourquoi? Pour la première info, pour briller au dîner.
RTL Soir, on défait le monde.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
Il est à 19h30, on est ensemble jusqu'à 20h. Vous commentez, vous réagissez, compte Twitter, page Facebook de l'émission. Première info pour briller au dîner. Marie, on parle culture.
Oui, vous savez que le musée du Louvre a une nouvelle patronne, hein, Laurence Descartes, nommée cette semaine. Ah. Et ça m'a donné envie de vous raconter le cambriolage le plus retentissant de l'histoire du musée, le rapt de la Joconde. Oh. On est un matin d'août 1911, les visiteurs se pressent pour voir Mona Lisa, mais à la place, un pan de mur vide. La Joconde a disparu. La nouvelle du vol se répand comme une traînée de poudre. Une immense enquête débute et très vite, des folles rumeurs circulent dans la presse. Picasso est soupçonné. Apollinaire sera même emprisonné à tort. Il faudra attendre 2 ans pour retrouver le cambrioleur, un vitrier italien, Vincenzo Perugia, qui avait mis la Joconde sous verre quelques jours avant le vol et qui, pendant 2 ans, a caché la toile dans sa chambre décrépite du 10e arrondissement de Paris. Il tentera de la vendre à un antiquaire à Florence. C'est là qu'il se fera arrêter et que la Joconde regagnera Paris.
Formidable.
Incroyable.
Ouais, on apprend plein de choses. Vous pouvez le caser au dîner ce soir, pourquoi pas. C'est signé Marie Mollet.
Allume la lumière.
Allume la lumière quand un expert nous éclaire sur l'actualité. Et ce soir, vous vous intéressez à la reprise économique du monde d'après.
Ah oui, pour une fois qu'on a de bonnes nouvelles. Hein, depuis le déconfinement, les commerces dits non essentiels cartonnent. Des chiffres quasiment jamais vus dans le secteur de l'habillement, par exemple. Du monde dans les magasins, dans les cinémas, dans les restaurants. Et cette épargne de plus de 150 milliards qui va peut-être nous permettre de relancer la machine.
Peut-être, vous venez de le dire, Cyprien. Donc on s'est demandé si cette euphorie d'ouverture était réellement durable. À quoi va ressembler le monde économique de demain? Et bien sûr, est-ce que cette économie de demain sera profitable à tout le monde?
Et pour allumer la lumière sur le sujet, on a contacté Philippe Dessertine. Il est directeur de l'Institut des Hautes Finances à Paris et il a surtout écrit « Le grand basculement, quel sera le monde d'après ?» C'est un peu la question qu'on se pose, donc ça tombe bien. Chez Robert Laffont, et d'abord, on lui a demandé si ce début de reprise était durable.
Il y a l'euphorie d'ouverture, évidemment. Il y a cette idée de rattrapage. Le rattrapage, ça veut dire que pendant des mois, on n'a pas consommé et que là, effectivement, il y a une sorte de frénésie. Il est certain que cette énorme dépression que nous avons connue l'année dernière entraîne évidemment un effet de récupération. Ça, c'est sûr. Ensuite, il y aura évidemment la façon dont on va envisager la croissance demain. Et ça, cette croissance, ça va être forcément différente. Peut-être parce qu'il y aura des contraintes. On risque très, très vite d'avoir de l'inflation. Ça va changer. Et on risque aussi très, très rapidement de dire, attention, il ne s'agit pas de recommencer tout comme avant, parce que comme avant, on savait qu'il y avait un certain nombre de problèmes, on savait que le dérèglement climatique nous obligeait à inventer un nouveau modèle économique. C'est-à-dire, on est en train de basculer. Tous les décideurs, quels qu'ils soient économiques, politiques, doivent bien se mettre en tête, c'est que si vous pensez comme avant, c'est-à-dire comme les crises d'avant, vous allez vous tromper totalement.
Donc une croissance qui dure, pourquoi pas, mais si j'ai bien compris, il faut tout changer.
Ouais, en gros, c'est ça. Selon lui, on est en train de vivre une vraie révolution. Écoutez.
Je pars sur une nouvelle forme de croissance. Ce dont on s'est rendu compte pendant le confinement, c'est que finalement, les technologies, le numérique, mais aussi l'intelligence artificielle, on va dire tout ce qui va avec la data, d'un seul coup, on s'est aperçu que ça pouvait changer la société. Qu'on n'avait plus besoin, par exemple, d'avoir des immeubles de bureaux, qu'on n'avait plus besoin d'avoir des grandes villes qui vont agréger les gens qui travaillent dans les services, qu'on peut travailler de loin. Et là, on s'en est rendu compte au niveau le plus élevé des élites, mais on s'en est rendu compte surtout sur le terrain. Les vrais gens, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait vivre différemment. Ça veut dire qu'une nouvelle croissance croissance est en train de se mettre en place. Et cette croissance, probablement que nos indicateurs traditionnels de PIB ne la représentent pas correctement. On doit revenir là, probablement, comme au grand moment des grandes révolutions technologiques, industrielles, on va dire à une mesure de l'immédiat, sans nécessairement passer par la monnaie, qui souvent, effectivement, représente mal la réalité des choses.
Donc c'est presque l'année zéro du monde de demain, en fait. Mais est-ce que ça va profiter à tout le monde, du coup, ce nouveau modèle ?
C'est un peu le grand challenge qui nous attend pour Philippe Dessertine. Et en plus, ça commence pas super bien.
Dans les faits, il y a des perdants d'ores et déjà. Nous avons un appauvrissement de la population française, 150 000 personnes de plus au RSA. Il est clair que le nouveau modèle doit apporter une solution, non seulement aux gens les plus déshérités à l'intérieur de nos propres pays, mais aussi, et peut-être encore plus, dans les pays qui sont à nos portes et qui, s'y sont appauvris, vont se retrouver dans des situations intenables. Donc je crois que là, vraiment, quand on parle nouveau modèle, il faut absolument raccrocher tout le monde. On ne peut pas avoir une vision qui soit une vision centrée sur soi-même. Donc je crois qu'on doit avoir cela en conscience aujourd'hui où le monde d'après est en train de démarrer, où on déconfine.
Et on signale que sur le monde économique de demain, il y a aussi l'excellent livre de l'excellent chef du service éco de RTL, Martial You. Et si la crise sanitaire était une chance aux éditions quel de l'Archipel. Faillot. Et on salue. Ça passe un petit
excellent
matin.
Oh, le faillot, mais c'est formidable. C'était passionnant en tous les cas. Dans un instant, c'est la deuxième info pour Vrier au dîner. C'est avec Laurent, des feux rouges, des feux verts, des feux oranges. À tout de suite.
Foum, foum.
On défait le monde sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
C'est la deuxième de ce soir. Il est 19h37 à tous ceux qui arrivent. On vous souhaite la bienvenue. Deuxième info pour briller au dîner avec Laurent.
Nous avons fêté un anniversaire cette semaine. Vous le savez, les 100 ans du code de la route. Ah, oui. Alors, il peut aujourd'hui donner des maux de tête à certains. Il existe 350 panneaux en France. Pour d'autres, les règles de dépassement, la priorité à droite, c'est au contraire très facile, comme pour vous, Cyprien.
Mais, oui.
Mais le...
en
plus,
mais le... conduit mal, basique. Cyprien. Conduit très mal.
Mais le code... Ah, c'était gratuit ça, Brice. Hein. Le code a évolué au fur et à mesure des années. Le feu tricolore n'apparaît qu'en 1932 à Paris. Et 10 ans avant, il n'y avait que des feux fixes de couleur rouge qu'il s'allumait quand il fallait s'arrêter. Mmh. Ensuite, le vert est apparu. Mais pour que les personnes daltoniennes ne se trompent pas entre le vert et le rouge, on a décidé de mettre un feu de couleur orange au milieu pour alerter. Attention, il va falloir s'arrêter. Puis autre mémo, vous le savez, le rouge en haut, l'orange au milieu, le vert en bas.
Ah ouais. Eh, on a appris un truc ce soir. Une fois de plus.
Oh, c'est sympa pour tous mes autres camarades, juste avant.
C'était Laurent Tessier, 19h38.
On était surpris que ça vienne de vous.
Le loser de la semaine.
Rigole, Brice. Le loser. Le grand perdant de la semaine.
C'est le décalage, hein, j'essaie de le décalage.
Et oui, parce qu'on rappelle que Brice est en Afrique du Sud, évidemment. En direct, pour nous, formidable. Le loser, le grand perdant de la semaine. Et alors, exceptionnellement, Marie, hein, je ne sais pas ce qui vous a pris, vous avez choisi de ne pas faire de politique ce soir.
Je ne sais pas ce qui m'a pris.
Et oui, puisque vos
je
grands...
regrette un peu.
Non, mais non. Puisque vos grands perdants du soir, ce sont ceux qui vont devoir retrouver les joies du présentiel au boulot dans les jours à venir.
Et oui, souvenez-vous, il y a plus d'un an, ce cataclysme.
Une action massive d'organisation du télétravail.
Il faut passer au maximum au télétravail. Ça n'est pas facultatif, le télétravail, c'est une obligation. 5 jours sur 5 en télétravail.
Adieu l'open space. On découvrait ensemble les petits bonheurs du travail chez soi, du calme dans son salon et son univers sonore apaisant. Mais aussi les réunions en visio, la magie du numérique et ses outils, le dialogue qui n'a jamais été aussi fluide.
Je vous ai perdu, Klaus. Cher Klaus, je vous vois, vous ne bougez plus, vous ne parlez plus. Klaus, je vous revois et je vous avais perdu.
Tous ces collègues qui, à toute allure, ont compris comment fonctionne la touche silence des réunions.
Madame Marie B, vous avez la parole.
Oh,
non, Madame Maribé, on vous entend.
Merci, vous m'entendez ?
Oh, très bien.
Et puis surtout, enfin, une protection totale de son intimité et de sa vie privée.
Mon fils, j'arrive à entrer, je suis à la télévision. Oui.
Les joies du direct.
Voilà, ça, oui. C'est les miracles du confinement. Voilà.
Ah oui, les miracles du confinement. Mais bon, malgré tous ces désagréments, beaucoup de Français s'y sont habitués. Hein. Ne nous mentons pas, le pyjama jusqu'à 11h, les escapades, la liberté, ça a du bon. Alors, résultat cette semaine, étude OpinionWay.
74% des télétravailleurs souhaitent ne pas revenir en entreprise comme avant.
30% redoutent les retrouvailles avec les collègues. 30% disent avoir peur de drames humains en revenant au travail.
Alors, les adeptes du télétravail ont bien l'intention d'y rester. Quand on leur demande, ils ne sont jamais à court d'arguments.
Le télétravail m'a permis d'éviter tout ce qui est problème de transport, etc.
De nombreux salariés souhaitent aujourd'hui rester en télétravail pour garder un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle.
Ah, le bon vieil argument de l'équilibre vie pro-vie personnelle. On le connaît par cœur, bon ça c'est la version officielle. Entre nous, la version officieuse, qu'est-ce que c'est ? Bon, j'exagère un petit peu, hein, c'est pas du tout les vacances, hein, le télétravail. Mais en tout cas, pour tous ceux qui ont pris goût, cette semaine, catastrophe.
À partir du 9 juin, on va assouplir les règles sur le télétravail. On va redonner la main aux entreprises.
Et ça veut dire qu'à partir du 9 juin, une entreprise peut décider de faire revenir tous ses employés dans les locaux.
On demande aux entreprises de trouver le bon équilibre dans le dialogue social au sein de l'entreprise.
Ah oui, c'est pas bien.
Et oui, ça dépendra du dialogue social. Ça sent le roussi. En tout cas, pour fluidifier le dialogue, si vous voulez dialoguer pour négocier votre télétravail, vous pouvez toujours essayer en visio, en Zoom, ça sera sûrement plus simple.
Je vous ai perdu, Klaus.
Formidable. Titre de 12 heures de la semaine. Avec Marie Mola, 19h41, c'est l'heure du game.
C'est l'heure du jeu, oui.
C'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Et alors, le Monsieur Cadeau de d'habitude n'est pas là. C'est Damien Béchiot ce soir à la réalisation. Et Damien, j'espère que vous n'êtes pas venu les mains vides.
Non, pas du tout. D'ailleurs, Monsieur Cadeau, je crois, est parti en reportage comme Brice du Génie.
Ah bon ?
Oui.
Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, on vous offrait 2000 euros pour vous sentir bien chez vous. Eh bien, cette semaine, on vous offre de quoi vous sentir bien loin de chez vous grâce à un séjour d'une semaine pour 4 personnes en demi-pension d'une valeur de 2000 euros. Oui. 2000 euros, c'est énorme. Et évidemment, on a choisi le numéro 1 des clubs de vacances en France pour ça, Bellambra. Alors vous choisirez mer ou montagne, famille ou amis, parmi plus de 50 destinations Bellambra partout en France. Je le redis, c'est pour 4 personnes. Alors les équipes Bellambra prendront soin de vous, bien sûr, grâce à des animations, du sport, des activités pour tous. Il y a même un club pour les enfants de 3 à 17 ans.
Mais attendez, juste là, qu'est-ce qu'on entend derrière vous, là ?
Ça ? Ah non, ça c'est rien, je me suis dit que c'était pas mal d'essayer le séjour pour garantir des vacances réussies aux auditeurs, en quelque sorte, vous connaissez bien ça, la conscience professionnelle, Stéphane. Ouais. En attendant, si vous voulez partir avant de partir, vous pouvez aller faire un tour sur le site de Bellambra, belambra.fr, belambra.fr. Je le redis, 2000 euros, 4 personnes, demi-pension, une semaine, mais pour ça, évidemment... Il faut une question, Cyprien.
Oui, la question, il est long. Hein,
il est long, toujours. Pour une fois qu'il écorche pas le nom du site internet.
La fameuse question dans Défait le Monde. On a parlé de lui dans le surf de la semaine en début d'émission. Comment s'appelle le mythique entraîneur de la JOCR ? Est-ce que c'est A, Guy Roux ? Est-ce que c'est B, Guy Brun ? Ou est-ce que c'est C, Guy Blanc-Platine ? Vous avez la bonne réponse, 32-10.
Pardon, c'est la conscience professionnelle.
Ouais, en tirant au sort, merci Greg. Parmi les bonnes réponses, une semaine en hôtel club à gagner.
Allez, c'est parti pour vous, chers auditeurs, auditrices. Un seul numéro à composer à partir de maintenant. Le standard est ouvert, c'est le 32-10, 3-2-1-0.
RTL Soir, jusqu'à 20h, on défait le monde. Stéphane Carpentier, Cyprien Cini.
19h43, c'est le billet retour quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on parle moins aujourd'hui.
Et comme Brice vient de passer quelques jours au Rwanda, le sujet s'impose de lui-même. Souvenez-vous, 1994.
Le Rwanda, où les affrontements entre tribus rivales ont fait au moins 80 victimes depuis une semaine seulement.
Voici la preuve de la purification ethnique et politique, un pouvoir accaparé par l'ethnie Hutu, au détriment de l'ethnie Tutsi, minoritaire et promise au génocide.
Image insoutenable, le génocide des Tutsis par les Hutus au Rwanda, dernier génocide du XXe siècle. Alors ce soir, Brice, on a voulu profiter de votre présence là-bas pour que vous nous racontiez ce que vous avez vu. Comment ces deux peuples arrivent-ils à cohabiter concrètement aujourd'hui après toutes les horreurs qui se sont passées ?
Eh bien parce que en 94, juste après le génocide, quand Paul Kagame, qui est d'ailleurs toujours président aujourd'hui, prend le pouvoir, l'une de ses premières décisions, c'est d'effacer sur les papiers officiels, les papiers d'identité des Rwandais, la mention qui était faite jusqu'alors justement de leur appartenance ethnique, Hutu ou Tutsi. En fait, quand on regarde l'histoire du Rwanda, le début de ces tensions entre les ethnies, c'est au début du XXe siècle, lorsque les colons belges décident d'apposer cette distinction sur les papiers d'identité des Rwandais. Et sur ces documents, ils vont décider d'écrire Hutu ou Tutsi, et ils vont faire des Tutsis l'ethnie dominante. Ça commence à créer des frustrations, des crispations qui, au fil des décennies, vont donc mener jusqu'à ce génocide de 1994. L'idée de Paul Kagame, c'est de dire... Il n'y aura plus de Hutus et de Tutsis, mais il y aura des Rwandais. Pour ça, il crée un gouvernement de réconciliation nationale qui est pour lui le seul moyen de relancer le pays. Il relance une constitution qui voit le jour sur le même principe. Et il y a aussi le principe de justice. Il fait en sorte que soient jugés les bourreaux, mais ils étaient tellement nombreux qu'il n'a hélas pas été possible de tous les juger et de tous les emprisonner.
Et donc pendant des années, les Rwandais ont vécu et vivent encore à côté de leurs anciens assassins.
Absolument, oui. Les Tutsis vivent et savent où se trouvent les meurtriers d'un parent, d'un frère, d'une sœur. Ici, là, parfois même, ils les croisent dans la rue. Parce qu'en fait, avant le génocide, ils vivaient tous ensemble. Et cela a continué après. Et ce qui peut paraître fou pour nous, c'est que la proportion de tueurs dans la population était tellement énorme que l'appareil judiciaire rwandais n'a pas réussi, justement, à faire face à cela. Alors les Rwandais, ils se sont, les Tutsis notamment, se sont dit qu'il fallait trouver d'autres solutions. C'est ce qu'explique Jean-Paul Kayumba. Il n'avait que 7 ans lors du génocide en 94, mais se souvient très bien de ces jours où il est resté caché avec sa mère pour échapper aux tueurs de son père, de ses grands-parents, de ses oncles, et il explique comment il revit après ça.
Pour être honnête, premièrement, on n'a pas le choix, parce que c'était nos frères ou nos voisins qu'on habitait ensemble. Mais c'est une proximité extraordinaire. Deuxièmement, tu te dis, le pays, le Rwanda restait toujours, malgré tout ce qui s'est passé. Et ce qui m'intéresse, c'est de rester au Rwanda. Tu te dis, comment je vais faire vivre ce pays? On essaie de vivre et malgré tout.
L'amour du pays, la peur de le voir sombrer, et puis la nécessité de s'en sortir et l'envie de reconstruire, et cette force qui l'anime.
La chose qui m'habite trop, c'est ce que mon père voulait pour moi. Je crois que mon père voulait la vie, voulait que moi je vive, voulait que j'essaye de garder la famille et de la mettre à la hauteur. Donc je vis parce que mon père voulait que je vive.
Vivre pour la mémoire des disparus, et puis il faut ajouter à cela donc la volonté féroce de Kagame d'unir le pays, parfois même de manière un peu autoritaire. Et ce qui semble d'autant plus incroyable dans cette réussite, c'est que les témoignages des victimes ici au Rwanda expriment un déchirement, une profondeur qui est insondable. Ce génocide, je vous le rappelle, il a fait près d'un million de morts, mais dans un pays qui ne comprenait alors qu'à peine plus de 8 millions de personnes. Juste en termes de proportion, c'est comme si demain en France, en quelques semaines, 7 millions de personnes étaient exterminées par d'autres Français. C'est inimaginable.
Ça veut dire quoi, Brice, que les Tutsis ont pardonné ?
Non, en fait, les Rwandais l'expriment extrêmement bien. Vivre ensemble pour eux, c'est autre chose que de pardonner. D'ailleurs, certains disent qu'ils n'auront jamais la force de pardonner. Mais pour toutes les raisons qu'on vient d'invoquer, la nécessité de faire grandir le Rwanda, alors ils peuvent continuer le chemin. Certains disent que le pardon ne se compte pas en années, il se compte en générations.
Et aujourd'hui, c'est possible de dire ouvertement « je suis Hutu » ou « je suis Tutsi » dans la rue ?
Oui, parce que désormais, ça ne renvoie plus à une forme de soumission ou de domination de l'un sur l'autre. Donc oui, c'est possible, et puis tout le monde sait qui est qui. Même si, selon certains spécialistes du pays, le fait d'avoir essayé de gommer les ethnies pourrait peut-être revenir comme un boomerang, parce qu'en fait, cette réconciliation, c'est surtout Paul Kagame qui la porte, parce qu'il a du charisme, parce qu'il est aussi assez autoritaire, et puis parce qu'il a la légitimité du libérateur. Et certains se posent la question, après Kagame, après lui, est-ce que justement cette union sera suffisamment solide pour perdurer à travers les décennies ?
Le Rwanda, le génocide, le billet retour de Brice du Génie, tout en direct. 19h49, vous restez bien là. La troisième info pour briller, c'est après ça.
RTL Soir, on défait le monde.
Chaque jour, Century 21, réseau d'agences immobilières, vous offre votre taxe foncière. Aujourd'hui, le gagnant est M. Guy Facon, qui a joué dans l'agence Century 21, agence de La Haye à Saint-Quentin. Vous aussi, tentez votre chance dans l'une des 915 agences Century 21. Règlements et conditions en agence et sur century21.fr.
On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
C'est la troisième de ce soir, 19h51. On retrouve Brice du Génie, notre grand reporter.
Oui, je voulais vous faire briller avec quelque chose d'un peu plus léger sur le Rwanda, un peu d'écologie. Je me demandais si vous saviez depuis quand les sacs en plastique n'existent plus au Rwanda. Ils ont été interdits, à votre avis.
Voilà. 5 ans ?
20 ans ?
Eh bien non, 2008. Oh. Le Rwanda était un des pays précurseurs suite à une loi votée pour lutter contre le fléau du plastique. Depuis 2008, il n'y a plus aucun sac en plastique au Rwanda. Et puis comme j'ai fait beaucoup de chemin, je vous en donne une deuxième. Allez. Puisque cette même année 2008, sachez que le Parlement rwandais est devenu le premier Parlement au monde avec une majorité de femmes élues. Premier Parlement au monde avec une majorité de femmes élues, c'était au Rwanda en 2008.
Ouais, c'est étonnant, c'est signé Brice du Génie, notre envoyé spécial, 19h52.
Marche
ou rêve.
C'est un rendez-vous que vous aimez, Marche ou rêve, quand on met en valeur vos projets, vos initiatives.
Avec ce soir des nouvelles d'une jeune étudiante en médecine qu'on avait reçue début janvier dans On défait le monde, Laurent.
Hélène, 27 ans, soignante sur l'île de Man au nord-ouest de l'Angleterre, interne en anesthésie réanimation. Elle était venue nous présenter un projet fou, l'ascension du mont Everest, le plus haut sommet du monde, 8848 mètres d'altitude, s'il vous plaît, souvenez-vous.
Je vais suivre un guide qui va normalement monter jusqu'au sommet, donc au mois de mai. Donc le départ sera début avril sur une période d'expédition de 7 à 10 semaines avec une première phase d'acclimatation avant d'attendre la météo pour tenter le sommet.
Et alors, elle a réussi, Hélène ?
Hélène est en ligne justement avec nous ce soir.
Oui, oui.
Bonsoir Hélène. Alors, Paris réussi ?
Bonsoir. Oui, c'est ça, Paris réussi.
Mais vous êtes où là ? Vous êtes au Népal ?
Oui, je suis toujours sur Katmandou. J'attends un vol pour rentrer en France.
Alors, est-ce que ça a été une balade de santé ? Parce que bon, on l'avait dit, au mois de janvier, vous avez fait des triathlons, des marathons, vous avez déjà grimpé un sommet à 7100 mètres sans oxygène. Bon, c'était la routine ?
Oui, mais là, j'ai pris le bon air, c'est ça. Tout s'est très très bien aligné. J'étais avec une équipe donc de Népalais Sherpa alpinistes que j'admire énormément pour leurs compétences en montagne et puis leur force physique extraordinaire qui m'ont monté jusqu'au sommet, donc le 11 mai. Voilà, après une période d'acclimatation qui fut plus rapide pour moi. Et puis voilà, c'était le premier jour d'ouverture du sommet, le 11 mai. Et voilà, c'était extraordinaire.
Quand vous étiez au sommet de l'Everest, enfin, quelles sont les sensations ? Qu'est-ce que l'on ressent à ce moment-là ?
C'est une vue imprenable sur toutes les autres 8000 qui voilà, sortent leur cime des nuages. On est au-dessus des nuages. J'ai vu le lever de soleil à travers les nuages. C'était magnifique. Donc je pense que voilà, c'était un des meilleurs moments de ma vie.
Vous êtes devenue quand même la 12e femme française à gravir l'Everest. Hein, et surtout la plus jeune. Vous entrez dans les livres d'histoire un peu.
Je vous remercie. C'est vrai, mais je pense que voilà, peu importe l'âge, peu importe le sexe, voilà, on gravir ce type de sommet est déjà incroyable et je pense que aussi dans la vie, chacun aussi a des sommets à gravir et c'est tout aussi louable.
On l'a dit, vous êtes interne en anesthésie, vous avez travaillé à l'île de Man notamment, avec le Covid, etc. Il y avait aussi une cause humanitaire pour ce projet, ce défi.
Tout à fait. Donc mon premier défi a été réalisé, mon premier Everest. Mon deuxième Everest est en cours. C'est une campagne de dons, voilà, pour soutenir la recherche médicale nationale publique française, l'INSERM, et plus particulièrement un laboratoire de recherche du professeur Fabien Zulimalion, qui est spécialisé en virologie et sur les hépatites du foie. Donc voilà, c'est le deuxième défi qui est en cours maintenant.
Ça va vous servir dans votre vie future de futur médecin, cette ascension ?
Bien sûr, je pense que ça a été un cheminement non seulement pour cette expédition qui a duré moins de 40 jours, mais c'est surtout en fait un cheminement depuis plus d'un an où j'ai sollicité l'aide des sportifs de haut niveau que j'ai pu rencontrer, du professeur Zulim et de l'INSERM qui m'ont soutenu, tout vous que j'ai rencontré en janvier, voilà, plein de personnes qui m'ont marqué sur ce chemin en fait.
Eh ben, bravo Hélène, on vous remercie, on est fiers de vous avoir eu avant et d'avoir suivi votre parcours jusqu'à ce soir.
Je vous remercie. Je veux faire un petit mot pour ma campagne de dons par les entreprises qui peuvent associer leur logo sur les vidéos qui vont être enregistrées à mon retour et les interviews et qui peuvent sponsoriser mon projet et qui sera versé à 100% à l'INSERM avec une déduction fiscale sur les impôts possibles aussi à hauteur de 2/3 de la somme versée. Je fais un appel aux dons aux toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Je vais poster des photos très belles de l'Everest sur les prochaines semaines. Suivez-moi sur mon réseau Instagram, Facebook, Hélène sur l'Everest. Contactez-moi, collaborons ensemble et soyons partenaires de ce deuxième Everest de campagne de dons pour la recherche médicale.
L'appel est lancé. Merci beaucoup Hélène et bon retour en France.
Je vous remercie, à bientôt.
Elle est trop forte. Hein.
Ouais. La balade de santé, les
vrais. Tranquille. Valentin est le grand gagnant de ce soir depuis les Sables.
Oui, Valentin des Sables d'Olonne. Bonsoir Valentin.
Bonsoir tout le monde, vous allez bien ?
Bienvenue. Oui, bien. Alors attends, vous n'avez pas encore gagné. Hein. La question, comment s'appelle l'entraîneur ?
Il
n'a
pas dit ça, comment vous l'agressez là ?
Est-ce que c'est... Ouais, mais j'ai senti un peu confiant Valentin. Est-ce que c'est Guy Roux, Guy Brun ou Guy Blond-Platine ?
Alors c'est Guy Roux.
Bravo Valentin !
Ouais, bravo.
Alors vous allez choisir plutôt une semaine à la mer ou une semaine à la montagne, vu que vous vivez au Sable d'Olonne.
Alors ouais, je vis au Sable d'Olonne, donc plutôt à la montagne.
Ah, formidable. Ah
oui. Très bon choix.
J'imagine. À 4, hein. Une semaine à 4. Vous connaissez pas Céline Landreau par hasard, une historique de cette émission, parce qu'elle est un peu souvent au Sable d'Olonne. Vous l'avez jamais croisée ?
Non.
Question. Non, mais je voulais m'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire avant de faire le cadeau.
Merci de votre fidélité, Valentin. En tous les cas, on est ravis de vous faire ce cadeau ce vendredi soir à 19h57. On a des petites nouvelles de notre reporter, donc vous avez des choses à ajouter ?
Pardon, c'est la conscience professionnelle.
Ouais. Toute l'équipe revient vendredi prochain.
Profitez bien de votre séjour, Valentin, et à la semaine prochaine à tous.
Il rentre quand, Brice?
Demain, décollage midi, arrivé dans la nuit de samedi à dimanche. Et semaine prochaine, quarantaine, ouais. Afrique du Sud, 10 jours de quarantaine au retour. Donc je serai dans l'émission, mais je serai à distance.
Et vous pourrez nous dire si on vous appelle bien tous les jours pour vérifier que vous êtes bien chez vous.
Ouais, alors bon, bah, je vous dirai ça.
Ça va être une enquête.
Ouais. Je sens déjà votre petite idée poindre là. Je vois bien.
Allez, point final, les amis, à vendredi prochain. Dans un instant, l'actu et dans la foulée, le ballon rond.
Salut.
Ciao. RTL Soir, on défait le monde.